bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les palmarès de fin d'année, très peu pour nous au grain à moudre. Cette manie qui consiste à décréter que tel livre ou tel film a dominé tous les autres, à se souvenir d'un événement comme le plus marquant des 12 derniers mois, à établir des classements dans tous les domaines. Non, nous n'y succomberions pas. Et puis, il se trouve que nous sommes faibles, pour ne pas dire affaiblis intellectuellement par le réveillon de samedi dernier et par anticipation par celui de demain. Alors tant pis pour cette ultime résolution que nous ne respecterons pas davantage que celle prise au mois de janvier. Et place à notre palmarès, année politique qui a survécu à 2016. Eh bien c'est la question que nous allons poser, ce sera la dernière pour cette année civile, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour cette année 2016, à trois des membres de notre club, Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignante en théologie politique à Sciences Po Paris, Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur de la suite dans les idées sur France Culture chaque samedi à 13h30. Pour vous, la dernière apparition de l'année, ce sera donc demain et ce sera avec qui?
Ce sera avec un historien qui s'appelle Thomas Hirsch, qui travaille sur le temps. Je me suis dit qu'un 31 décembre, c'était pas mal.
Et puis on m'a même glissé à l'oreille que vous seriez présent dans la matinale de Caroline Brouet demain matin. Il y a beaucoup de Sylvain Bourmeau en cette fin d'année. C'est le cadeau. C'est un des cadeaux de la chaîne. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant. Vous dirigez le cabinet de conseil en stratégie, Footprint Consultant. Alors que vous le savez, chaque semaine, nous démarrons cette émission par un petit montage sonore. Et cette semaine, c'est notre réalisatrice Clémence Grosse qui s'en est chargée. C'est sa vision de l'année politique française.
Allô ? Oui, tu m'entends ?
La commission Assemblée citoyenne. Ça, c'est les assemblées qui vont continuer.
Il y a une expertise civile. Lorsque je suis arrivée, le déficit de la sécurité sociale était de 21 milliards. Il est un peu inférieur à 13 milliards cette année, ce qui veut dire que nous l'avons réduit de 40%.
Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur.
À réfléchir attentivement à l'avenir que l'on propose à ce
sujet. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle.
Je suis candidat.
Je suis président de la région, je serai candidate à la présidentielle. Et figurez-vous que les électeurs qui votent pour moi là.
Eh oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. C'est une occasion formidable de dénouer les liens qui nous paralysent aujourd'hui.
Je souhaite le meilleur. Mon pays, pour vous mes chers compatriotes, et pour celui qui ira conduire
de circulation sans entrave, des biens, des marchandises, des investissements, mais des barbelés, des murs et des camps pour les personnes, vous déroulez le tapis rouge de l'extrême droite et de tous les nationalismes. Ayez le courage d'aller devant la Cour européenne.
Oui, moi-même, je ne voudrais pas laisser passer les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de Voulenant, les fous de donner les fêtes de la Voulenannée sans vous présenter, si vous le permettez, même Meverlieu.
Voilà, c'était l'année 2016 vue par Clémence Grosse. On va voir quelle sera la vision que vous portez les uns et les autres à travers le petit palmarès que nous vous proposons, qui n'a évidemment pas d'autre valeur que celle de revenir un petit peu sur les événements marquants de l'année qui s'achève. Nous allons essayer de voir quelles auront été les révélations politiques, les déceptions, les disparitions, peut-être avant tout au sens symbolique du terme, et puis les satisfactions ou les confirmations dans le domaine politique. On va commencer, si vous le voulez bien, par les révélations. Alors, quand on vous a, comme chaque semaine, envoyé un petit message pour vous dire voilà le sujet que nous allons traiter cette semaine, on vous a mis quelques petites pistes pour vous guider, mais sans doute n'en auriez-vous pas eu besoin. On avait mis dans la liste, par exemple, pour les révélations, Emmanuel Macron, François Ruffin et le mouvement Nuit Debout, et Yannick Jadot, qui portera les couleurs de l'écologie à la présidentielle. François Fillon, est-ce que c'est une révélation? Je ne sais pas. Oui, ça l'a été en tout cas par rapport aux résultats qu'il a obtenus. On aurait pu en ajouter d'autres. Pour vous, Anastasia Colosimo, ce serait qui?
Alors déjà, je voulais juste revenir sur ce petit medley qu'on a eu. C'est formidable parce que j'ai l'impression qu'avec l'accélération historique, on est de plus en plus vite nostalgique. Donc là, l'année 2016 n'est pas encore terminée techniquement, il reste un peu plus de 24 heures. Et en écoutant ça, j'étais déjà nostalgique de cette année qui pourtant a été assez abominable. Mais donc voilà, je pense que c'est cet effet de l'accélération historique qu'on vit au quotidien.
Bon, il vous reste quelques heures encore pour la savourer cette année.
C'est vrai.
Alors, donc la révélation de 2016.
Alors la révélation 2016, moi je dirais quand même que c'est François Fillon. Et je dirais que c'est François Fillon, déjà parce qu'effectivement, on ne pensait pas du tout qu'il allait gagner, mais aussi parce qu'il s'est révélé, lui, je pense, à lui-même. Et on peut penser ce qu'on veut de son programme. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée et qui m'a fait vraiment plaisir, c'est le côté justement anti-festivus de François Fillon. C'est-à-dire que pendant que les Américains élisaient Trump, c'est-à-dire vraiment le tenant absolu de la société du spectacle, nous, on avait une surprise politique, et cette surprise politique, c'était François Fillon. Et je trouve qu'on sentait très bien qu'il y avait quelque chose qui se passait en lui et qui ensuite a été confirmé dans les urnes au moment où on l'a vu à l'émission politique sur France 2. Et que Charline Vanhoenacker est venue faire donc sa chronique à la fin, qui est une chronique humoristique. Et François Fillon sourit pendant toute la chronique. Et à la fin, il la regarde et très poliment lui dit « J'aime beaucoup ce que vous faites, c'est très bien. J'irai sans doute voir votre spectacle si je pouvais. » Ensuite, je pense que je suis pas sûre que ce soit très approprié à la fin d'une émission politique où on abordait des thèmes sérieux. Et c'est ce sérieux-là, ce sérieux de l'homme de l'État, qui en plus, effectivement, a toujours été très clair et très cohérent sur ses idées, sur son programme, et qui ne ment pas, qui a triomphé à la fin. Et quelque part, ça m'a rassurée, encore une fois, pas sur ce qu'il propose, mais sur ce qu'il est. Ça m'a rassurée un peu sur notre population.
Donc vous en faites votre révélation politique de l'année. Est-ce que vous diriez aussi qu'il révèle quelque chose de l'état de la politique aujourd'hui en France et de ce que pense une partie des Français? On a beaucoup dit que, à travers son vote, il y avait notamment le retour d'une France un peu traditionnelle, conservatrice, qu'on n'avait peut-être pas vu ressurgir suffisamment tôt.
Ça, c'est sûr. Ensuite, je pense qu'il y avait aussi un effet assez bizarre de dire... moi, j'étais surprise qu'on dise « mais la droite est vraiment de droite ». Oui, la droite est vraiment de droite, elle a toujours été de droite. Cette droite-là, elle existe depuis toujours. Je pense que quand même, encore une fois, son caractère anti-festivus a joué. Tout d'un coup, on a eu l'impression que c'était un homme d'État, qu'il était sérieux, qu'il n'était pas vendu à tout, qu'il ne voulait pas rentrer dans toutes les folies journalistiques, télévisuelles, la manière dont il a parlé aux journalistes aussi, qui était de dire « mais nous sommes des politiques, nous allons être potentiellement élus par le peuple, donc on a le droit de s'adresser sans cette médiation permanente. » Et justement, cette année 2016, c'est peut-être la fin aussi des médiations, la remise en cause des médiations. Et donc, je pense que ça a beaucoup joué, évidemment.
Alors, Philippe Manière et Sylvain Bourmeau, que pensez-vous de ce choix? Et est-ce un choix identique à celui que vous avez fait, Philippe Manière?
Moi, c'est le choix que j'aurais suggéré, effectivement, de mon côté également. Pourquoi? D'abord parce que les autres qui peuvent venir à l'esprit ne sont pas vraiment des révélations. Emmanuel Macron, c'est plutôt la révélation d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans. Alors c'est la révélation au sens où il a franchi une ou deux marches supplémentaires en quittant le gouvernement, en se présentant ensuite à la présidentielle et en annonçant qu'il ne passerait pas par la primaire. Tout ça effectivement est assez spectaculaire, mais ça n'est pas une révélation. On voyait cette marche vers, si ce n'est le pouvoir, en tout cas le désir de pouvoir depuis un certain temps. Fillon, c'est vraiment, je trouve, une révélation. D'abord parce que c'était vraiment le petit chose. Enfin, rappelez-vous, il y a encore 2 ou 3 mois, tout le monde souriait poliment, parce que comme il est intègre, personne, je crois, ne le conteste. Il est un des rares candidats à n'avoir jamais vu un juge. On considérait que c'était pas forcément opportun d'en dire du mal, mais personne n'aurait été jusqu'à en dire du bien. C'était un peu ridicule. Je crois que cette intégrité, ça va dans le sens de l'anti-festivus qu'évoquait tout à l'heure Anastasia. Je pense que cette intégrité lui a été inviatique dans cette progression qu'il a faite au dernier moment en surprenant tout le monde. Donc vraiment, pour moi, c'est une révélation. Je pense que ça révèle aussi, c'est pour ça que j'ai voulu retenir Fillon, pas seulement parce que c'est la révélation Fillon, je pense que ça révèle aussi quelque chose, c'est qu'on est probablement passé, du point de vue d'un sujet qui m'intéresse professionnellement, qui est la communication, dans une ère différente du post-spin doctor. Vous savez, il y a eu toute cette époque où il y avait des spin doctors. Vous aviez des gens qui vous conseillaient sur votre communication de manière très intelligente, généralement, de manière relativement efficace pendant des décennies.
Ouais, il a quand même été conseillé. On parle beaucoup aujourd'hui du rôle de Patrick Stefanini,
qui est un faiseur de rois. Oui, bien sûr, il est conseillé, mais c'est pas des spin doctors. Ce sont des gens qui disent, voilà la posture que vous devriez occuper ou que tu devrais occuper. Et puis, c'est assez simple et c'est le candidat qui l'endosse et elle correspond plus ou moins au caractère du candidat. On n'est pas dans cette espèce de manière de distordre la réalité ou d'envoyer des messages spécialement faits pour convaincre qu'on a connu du temps de la grandeur des spin doctors. Je crois qu'on peut dater à peu près de l'arrivée au pouvoir de Blair et Clinton jusqu'il y a quelques années seulement. Donc on est sorti de tout ça. Je crois que Fillon est une révélation et qu'il révèle la fin de l'époque des spin doctors.
Bon alors, pour l'instant, nous avons donc 2 voix comme révélation de l'année pour François Fillon, qui, rappelons-le quand même, a été pendant 5 ans Premier ministre. Mais c'est vrai qu'il a changé de statut là, à la faveur de cette primaire. Est-ce que vous allez briser ce consensus, Sylvain Bourmeau?
Ben non, François Fillon, à l'unanimité. Non, mais
je suis surpris. Il y a deux manières, ça, en fait.
Il y a deux manières de répondre à la question qui nous est posée. Soit on va chercher une révélation qui nous fait plaisir et on est dans la oui.
Ouais. Et auquel cas vous auriez choisi qui alors?
De mauvaise foi. Eh ben, justement, c'était ce que j'avais l'intention de faire. C'était ma réponse la plus spontanée. Et j'ai cherché en vain. C'est-à-dire que, comme je n'ai pas trouvé de réponse à cette façon de faire, c'est-à-dire aller chercher avec parfois peut-être un peu de mauvaise foi ou un peu d'exagération, ce qui aurait, une personne qui aurait pu être une révélation positive à mes yeux.
J'avais quelqu'un à vous suggérer, moi, mais je vais vous le dire après.
J'ai choisi, du coup, de ne pas être du tout dans le jugement de valeur, mais d'être simplement dans le constat factuel, objectif. De fait, si on prend au sens propre le mot de révélation, François Fillon s'avère là, révélation politique, puisque c'est ce qu'on nous a demandé, de cette année 2016. Révélation au sens où ce n'est pas une apparition, c'était quelqu'un qui, dans la plus pure tradition politique française, parvient à se hisser à cette avant-dernière marche avant la présidence de la République, qui est celle d'être candidat favori à cette élection, à l'ancienneté, comme on fait dans la politique française, en étant passé par, en particulier, le poste de Premier ministre, qui, en général, aide, pas toujours, mais aide un certain nombre de futurs candidats et présidents de la République. Donc, ce n'est pas une surprise, François Fillon, au sens... c'est pas quelqu'un qui arrive d'une autre planète, mais c'est une véritable
c'est
révélation.
C'est pas une découverte.
Au sens, voilà, c'est pas une découverte, mais c'est une révélation au sens où tous... Je pense, autour de cette table, n'aurions pas mis un copec sur la victoire de François Fillon il y a 6 mois à cette primaire de la droite. On voyait davantage soit Alain Juppé, soit Nicolas Sarkozy remporter cette élection. Et même certains parlaient, s'enthousiasmaient d'une possible victoire de Bruno Le Maire à un moment. Donc vraiment, Fillon ne partait pas gagnant. Et puis, évidemment, oui, ça révèle quelque chose de la droite française. Alors, je partage ce diagnostic objectif, je dirais, tel qu'il a été exprimé par Anastasia et par Philippe à l'instant, mais sans partager exactement l'analyse d'Anastasia sur ce qu'est François Fillon. Je pense que c'est la droite, effectivement, la plus traditionnelle. Est-ce que, pour autant, Fillon va... incarner, être capable d'incarner la droite dans un sens plus large, je pense qu'il faut faire très attention sur nos analyses parce que là, on a une élection qui est celle d'un corps électoral certes important, et ça c'est une bonne nouvelle, le fait que cette primaire de la droite ait été un succès en termes de participation, mais néanmoins, un corps électoral qui reste un petit peu au-dessus de 4 millions, c'est-à-dire tout petit par rapport au corps électoral de l'élection présidentielle. Et la question qui se pose désormais, c'est celle de la capacité de François Fillon, une fois ayant obtenu ce statut, ce brevet de présidentiable, fédérer autour de lui l'électorat de droite très largement. Or, cet électorat de droite, qui est le noyau dur de la droite, qui a choisi Fillon, est très très classique, évidemment, et très à droite, on l'a vu, avec des mesures qui font sacrément peur, de mon point de vue. Mais l'électorat de droite à une présidentielle, c'est autre chose. C'est pas aussi cohérent que ça. En tous les cas, si on regarde l'électorat de Nicolas Sarkozy en 2007, en 2012... c'est des tas de gens qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont voté pour Fillon au moment de la primaire. Donc, moi, mon interrogation, en particulier face à Marine Le Pen, c'est celle de la capacité de Fillon à faire voter pour lui au premier tour plutôt que voter pour Marine Le Pen un certain nombre d'électeurs.
Donc, révélation pour 2016, mais incertitude pour 2017. Je disais que j'avais éventuellement moi pensé que quelqu'un d'autre pourrait avoir vos faveurs, Sylvain Bourmont, même si c'est quelqu'un qui est beaucoup moins médiatisé et beaucoup moins connu, puisque vous êtes un fervent partisan de cette procédure des primaires. Je m'étais dit, tiens, il va peut-être penser à Caroline De Haas, par exemple, qui est quelqu'un qui a été justement à la manœuvre pour organiser ses primaires à gauche, qui par ailleurs a lancé la grande pétition contre la loi travail. On a vu à quel point ça a eu aussi un poids dans le débat politique en 2016. Voilà, je me dis, tiens, peut-être Caroline De Haas pourrait figurer dans le palmarès. Mais il y avait aussi Paul Magnette, Jean-Frédéric Poisson, Marion Maréchal-Le Pen. Enfin, vous voyez, la liste pouvait être longue. Bref, je retiens qu'il y a unanimité autour de la personne de François Fillon. Ça, c'est pour la révélation. Deuxième catégorie, la disparition de l'année, disparition politique de l'année, qui peut être une disparition symbolique, c'est-à-dire voilà la personne dont on imagine qu'elle ne reviendra pas, ou en tout cas qu'elle ne reviendra pas là où elle était à un poste aussi important qui pouvait être le sien. Ce serait qui pour vous, Philippe Manière?
Moi, je suis embarrassé avec l'idée d'être strictement dans la symbolique parce que j'ai en tête quelqu'un dont la disparition physique est, à mon avis, aussi une disparition symbolique. C'est Michel Rocard.
Pour moi,
la mort de Michel Rocard est un événement très important parce que je pense que Michel Rocard et sa manière de voir le monde étaient très importants parce que c'était le vestige de quelque chose qui, malheureusement, sans doute, a très largement disparu, qui reviendra peut-être. Je ne suis pas en train de dire que c'était tout mieux avant et qu'on va vers l'abîme en klaxonnant. J'ai dit simplement qu'il y avait chez Michel Rocard une honnêteté, une candeur, parfois d'ailleurs à l'excès. Moi, je l'ai vu s'enthousiasmer pour certaines causes. Honnêtement, on discutait 3 minutes avec lui et puis il était vacciné parce que c'était juste une espèce d'enthousiaste permanent, Michel Rocard. Mais malgré tout, il y avait derrière cette candeur une capacité à ne pas être cynique, une capacité à être honnête intellectuellement, vraiment honnête intellectuellement, et avoir une très grande simplicité. Moi, j'ai participé à quelques commissions, etc. avec lui. C'est incroyable à quel point quelqu'un d'aussi remarquable pouvait être simple. Hein, il accrochait tranquillement son petit imperméable, il vous priait de l'excuser parce que peut-être il ne serait pas là à l'une des 12 séances prévues, alors que la moitié des gens qui étaient là, évidemment, s'excusaient pas du tout et viendraient à une séance maximum pendant les 12 organisées. Donc vous aviez chez cet homme quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement honnête, d'extrêmement propre. Et je pense que sa disparition est importante, que le fait qu'il n'ait jamais réussi à franchir la dernière étape vers le pouvoir, c'est-à-dire vers l'élection présidentielle, est en soi également quelque chose d'important et d'intéressant. Il n'a jamais été battu d'ailleurs, il a renoncé à se présenter, il a raté peut-être certaines opportunités. Donc voilà, je pense qu'il y a dans la fin de Michel Rocard quelque chose d'important et que c'est une disparition, alors à la fois physique évidemment, mais aussi symbolique.
Symbolique parce que disparaît avec lui une certaine idée
de la politique et du comportement, enfin comment dire, de la morale publique, je ne parle pas de morale, de morale publique et du comportement, du bon comportement en politique. Comme il y a un bon gouvernement, il y a un bon comportement en politique.
Anastasia Colosimo.
Moi, j'ai réfléchi aussi un peu et la disparition qui me paraît la plus intéressante parce qu'elle permet d'évoquer un des sujets les plus importants de 2016, c'est évidemment l'élection de Trump. La disparition, c'est celle de Barack Obama. Pour des raisons constitutionnelles.
Alors voilà. Là, on sort de France. Mais c'est vrai que dans notre règlement intérieur, on n'avait pas mentionné.
Ah oui, vous n'aviez pas dit.
Non, c'est vrai.
Il faut
donc
que
vous avez
rétracte.
Le droit. Non, vous avez tous les droits. On est le 30 décembre.
Non, mais je trouvais ça intéressant parce que il y a un côté déjà qui se révèle chez Obama un peu après moi le déluge, où il vient expliquer à Trump que si c'était lui, il aurait été élu, etc. Et il y a aussi le fait que voilà, on a eu quand même 8 ans d'un président beau, formidable, classe, extraordinaire. Et tout d'un coup, on se retrouve avec Trump. Et en même temps, quand on regarde cette disparition, du coup, on se dit voilà, ça y est, Obama ne va plus être président. Et on essaie de dresser un bilan des années Obama. Et là, je trouve que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que sur le plan intérieur, il laisse un pays quand même qui est extrêmement divisé. Une des questions qui était très importante quand même, qui était celle du racisme et qui est évidemment une question qui lui tenait particulièrement à cœur, est très très loin d'être réglée et on pourrait même dire que ça s'empire, la situation s'empire. Au niveau international, on ne peut pas dire qu'il ait mené une politique vraiment ambitieuse, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Entre le discours du Caire et aujourd'hui, on voit bien que bon, le décalage est immense. Et donc cette disparition dont on pourrait croire qu'elle est absolument tragique, en fait, on ne sait pas trop. Et surtout, Trump arrive derrière et le plus difficile avec l'arrivée de Trump, c'est que tout d'un coup, on est dans une situation assez étrange, c'est qu'il est parfaitement imprévisible. Enfin, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer.
Sylvain Bourmeau.
Alors, deux mots sur Obama. Je partage pas du tout ce jugement négatif sur son bilan. Je pense que la simple élection de Barack Obama aura à elle seule fait avancer considérablement la question du racisme aux États-Unis. Donc déjà, ça c'est un fait historique qui ne peut pas être défait, même si on aurait pu espérer un certain nombre de mesures, probablement, mais... Ça, c'est une chose considérable. Par ailleurs, le système de santé a ses défauts, tel qu'il a été mis en place par Obama, mais n'empêche qu'il a fait sacrément progresser les choses. Et d'ailleurs, Trump veut s'empresser de le détricoter. Et puis, dernière petite remarque, puisqu'on ne va pas passer 3 ans sur le bilan Obama dans cette émission, mais on aurait aimé, en fait, au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours, qu'Obama prenne davantage de liberté au plan de la politique internationale. Ce qu'il a laissé faire à l'ONU ces derniers jours est particulièrement intéressant. Et on se dit qu'au fond...
C'est assez classique chez les présidents américains en fin de mandat. Hein.
Oui, l'élection de Trump, mais surtout avec l'idée que Trump prenne sa place en janvier, le pousse à être un peu plus audacieux.
Ah, vous trouvez qu'il me l'a manqué d'audace.
Je trouve que, voilà, okay. Je trouve que Obama aurait dû être davantage audacieux, enfin, audacieux plus tôt, en quelque sorte. Juste aussi, quelques mots pour réagir au choix de Philippe Manière. J'aurais pu faire exactement le même choix. Je pense que la disparition de Michel Rocard est probablement l'un des événements politiques très importants de cette année. Michel Rocard, je suis pas persuadé.
Même s'il avait quand même disparu de la scène politique. Enfin, je veux dire, on peut pas dire qu'il pesait encore beaucoup aussi.
Non, mais jusqu'à la fin, il aura contribué de manière intellectuelle par des prises de parole régulières à analyser ce qui était en train de se passer. Et puis aussi, même, il prenait très à cœur son rôle d'ambassadeur des pôles, par exemple. Enfin, à chaque mission qu'on lui a confiée, c'était ce côté grand commis de l'État dont parlait Philippe Manière. Je veux dire, depuis ce rapport que tout jeune inspecteur des finances, il réalise en secret en Algérie, sur les camps de concentration qui sont organisés pour la population algérienne et qui fait passer au général de Gaulle en court-circuitant sa hiérarchie, ce qui est quand même un acte extrêmement courageux et audacieux pour le coup de la part d'un jeune haut fonctionnaire. C'est quelqu'un qui aura eu une carrière au service de la République absolument admirable. Il faut parler de ce qu'il a fait pour la Nouvelle-Calédonie, de son bilan comme Premier ministre. Et on ne peut que déplorer effectivement qu'il n'ait pas été en mesure un jour d'être candidat à l'élection présidentielle, à part 1969, où il portait les couleurs du PSU. Donc, Michel Rocard incarnait aussi non seulement cette intégrité, mais surtout un rapport intellectuel à la politique qui fait sacrément défaut aujourd'hui. Alors, moi, j'aurais quand même proposé une disparition au sens symbolique du terme, puisque pour moi, il y a un événement mais absolument majeur dans la politique française en 2016. C'est la disparition annoncée, programmée de François Hollande. C'est-à-dire la disparition...
C'est fou qu'on ait failli l'oublier.
La disparition...
Moi, j'avais dans ma liste, hein, j'ai des preuves.
La disparition de François Hollande comme candidat à sa réélection. C'est un fait politique majeur. Enfin, je veux dire, compte tenu de ce que sont nos institutions, de la propension de chaque président à se représenter à cette élection, soit pour gagner, soit pour perdre, on a eu tous les cas de figure, c'est absolument incroyable que il se soit mis ou il se soit trouvé dans une situation qui l'empêche de même se porter simplement candidat. C'est-à-dire,
mais ça, c'est une fois... manière. C'est-à-dire, on a failli l'oublier.
Ah non, moi, pour moi, j'ai immédiatement pensé à ça.
En même temps, il n'a pas encore complètement disparu. C'est peut-être pour ça.
Bah, Obama non plus.
Il a disparu comme candidat.
Oui, c'est vrai. Il s'est fait disparaître lui-même dans le fond.
Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est évidemment son bilan, ce qu'il en est venu à représenter, à incarner aujourd'hui, qui se traduit par des chiffres de sondages ou par des appréciations qui sont portées sur lui. Mais la deuxième raison, c'est la transformation de la politique française avec l'apparition des primaires. C'est ça qui l'a conduit à devoir renoncer. S'il n'y avait pas eu cette étape qu'il a perçue comme obligatoire, qui s'est institutionnalisée et imposée à lui, il aurait probablement était candidat.
Anastasia Colosimo, vous avez changé d'avis, c'est ça, vous voulez réagir?
Non, j'ai pas du tout changé d'avis, mais je demandais un droit de réponse sur la question justement du racisme aux États-Unis. Et Sylvain Mauss, vous venez de dire que c'est symboliquement, c'est tellement important qu'il ait été élu et que déjà c'était suffisant. Alors je pense que premièrement, ce n'est pas du tout suffisant.
C'est pas dit suffisant.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on reçoit quand même la France, par exemple, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et même en novembre, on reçoit sans arrêt des leçons des États-Unis, des intellectuels américains, des journalistes américains qui nous expliquent qu'on est raciste, que l'État est trop coercitif, que ceci, que cela. Les États-Unis, c'est un pays où il y a un noir qui meurt par jour, tué par un policier. Donc le racisme, c'est un problème qui est extrêmement vivant et qui est absolument terrible aux États-Unis et qui n'est pas réglé. Et pour moi, c'est un problème qui n'est pas seulement américain, mais aussi européen. Et il faudrait un peu qu'on réfléchisse à ça. On ne peut pas remplacer la question sociale par la question raciale.
Bon, et quand on fera une émission bilan, enfin, on en a déjà fait d'ailleurs hein, quelques-unes sur Obama, ce sera notamment un des sujets sur lequel on aura l'occasion de revenir. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de poursuivre notre petit palmarès. Il y a deux autres catégories qu'on a imaginées. La satisfaction de l'année, la déception de l'année. Je ne sais pas laquelle vous tente le plus, Philippe Manière. Pour l'instant, la déception.
Enfin, moi, j'étais parti plutôt sur la satisfaction.
Non, ouais, c'était pour terminer sur un
autre sujet. Voilà, on revient sur une note positive. Donc, sur la déception. Alors, là encore, je suis obligé de tricher un peu parce que pour être déçu, il faut s'attendre à quelque chose et ne pas le voir arriver. Je n'ai pas été déçu, mais j'ai été ravagé par Anne Hidalgo et sa politique à Paris, s'agissant de la fermeture des Vasseurberges, etc. Alors, je sens qu'on va bassiner un certain nombre d'auditeurs de région. Je tiens à dire que je ne suis pas totalement suspect, même aux yeux des plus militants, puisque je prends le bus, le métro, parfois le taxi, mais généralement j'utilise les transports en commun. Mais je considère qu'il y a un péché contre l'esprit dans la manière dont Anne Hidalgo a voulu manifester son attachement aux fleurs des champs, aux petits oiseaux et à la pureté de l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de ce qu'on aurait fait dans un pays sérieux, avec une équipe sérieuse du type ce qu'on voit en Scandinavie, comment on peut faire, comment on phase les choses dans le temps, etc. On aurait pu dire, par exemple, je sais pas, les voitures électriques sont obligatoires dans 10 ans et dans 5 ans, il faut qu'il y en ait plus de la moitié, et dans les 2 ans, la file de gauche l'aurait réservée partout. Enfin, il y a 1000 choses à imaginer. Mais la fermeture d'autorité d'un axe qui permettait aux Parisiens de rouler, peut-être qu'ont-ils tort de rouler, c'est une autre question, a comme conséquence vraiment des souffrances sociale, pour le coup, terrifiante pour les Parisiens et les banlieusards. Mais le quantum de ces souffrances dépasse l'entendement. C'est incroyable que quelqu'un considère comme élu que son mandat l'autorise à faire souffrir autant les gens qui l'ont élu. Je trouve ça absolument fascinant. Donc, c'est même pas une déception parce que je m'attendais pas à grand chose. Encore que j'ai croisé Anne Hidalgo plusieurs fois dans ma vie et que j'ai toujours trouvé que c'est une femme plutôt agréable. Peut-être subit-elle une pression irrésistible de la part des écolos, ou plutôt, je pense que c'est le plus probable, malheureusement, est-elle tombée tellement amoureuse de l'image d'elle-même en tant que rédemptrice de l'humanité et de Paris. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui me paraît complètement fou dans cette politique publique et ça me paraît être, voilà, le point noir, si ce n'est la déception, puisqu'encore une fois, je m'attendais pas non plus à quelque chose de formidable.
Et ben voilà, Anne Hidalgo qui est rhabillée pour l'hiver, ce qui est important par ces périodes de grand froid. Ah oui, Anastasia Colosimo.
Moi, je vais encore me faire. Je vais encore me faire engueuler, j'ai mal fait mes devoirs, j'ai pas compris que c'était sur la France, mais donc je voulais parler évidemment du dossier syrien, parce que c'est là-dessus quand même que se clôt l'année 2016, sur des images de plus en plus terribles. Quand même, je dirais, pour parler de la France, peut-être même plus généralement de l'Europe, que la déception énorme, c'est. Enfin, non seulement le fait que rien n'est fait, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'un choix est opéré, c'est un mauvais choix.
Donc ça serait quoi ? Ça serait la diplomatie française et la diplomatie européenne ?
Oui, la diplomatie française et la diplomatie européenne. Oui, la diplomatie, en tout cas la diplomatie française, par exemple, oui, complètement. La diplomatie européenne, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de pays très différents en Europe. Mais la diplomatie française qui est, je trouve, catastrophique, et particulièrement catastrophique en cette année 2016, où des questions, où il y a eu quelques rendez-vous très précis, et où la France était soit absente, soit molle, soit incompréhensible.
Parce qu'elle manque peut-être d'incarnation, c'est-à-dire quand vous dites la diplomatie française, ça peut être aussi celui qui en a la charge aujourd'hui, c'est Jean-Marc Ayrault.
Oui, alors là c'est un piège.
Non, c'est pas un piège, c'est la réalité.
La diplomatie française n'était pas tellement meilleure avant Jean-Marc Ayrault.
Non, là, c'est ça, c'est que je dirais que la diplomatie française n'était pas vraiment meilleure qu'avant, mais ce que je trouve problématique, c'est qu'on n'a même pas de message, quoi. Enfin, on ne sait même pas où est-ce qu'on en est, on ne sait même pas quoi penser, on ne sait même pas ce qui est fait, on ne sait rien. Et il y a des espèces de petits mouvements complètement étranges. Alors bon, moi c'est une question à laquelle je suis particulièrement sensible, mais même voilà, quelle est notre politique extérieure vis-à-vis de la Russie ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'était cette histoire même, le fait que Poutine n'a pas pu venir inaugurer la cathédrale qui a été construite sur la Seine ? Enfin voilà, moi je ne comprends pas.
Bon, sur la Syrie, il faut quand même pour essayer de balancer un petit peu votre constat, dire que Jean-Marc Ayrault, la diplomatie française, n'ont pas été, en tout cas, les moins actifs sur cette question, en essayant de prendre un certain nombre d'initiatives à l'ONU, qui n'ont pas été suivies par les autres grandes puissances. Mais on ne peut pas dire voilà, que la France soit restée totalement inactive sur le dossier.
Non, bien sûr, mais il y a cette tendance toujours de se mettre un peu dans la roue des Américains, quand même.
Ah, c'est sûr que Jean-Marc Ayrault n'a pas fait une alliance avec Poutine. Mais ça, ce sera pour quand on aura Donald Trump ou François Fillon, voire Marine Le Pen, aux commandes en France.
Ouais. Non, mais ce n'est pas la question, mais il y a une tendance à se mettre dans la roue des Américains. Et donc, du coup, à juste prendre la température des Américains et tenir un discours du coup qui est juste en concordance, qui fait qu'effectivement on a du mal à comprendre quelle est la politique extérieure de la France.
Anastasia Colosi, moi je vous laisse juste quelques petites minutes pour réfléchir à notre dernière catégorie pour que ce soit bien quelque chose qui est très à la politique française, hein, d'accord. Sylvain Bourmeau.
Ben la déception, là encore, déception, le mot convient peut-être pas vraiment bien dans la mesure où c'est pas une surprise, mais c'est quand même une source d'étonnement, d'agacement permanent qui a été pour moi de voir dans cette année 2016 la gauche continuer à s'enfoncer bien loin de ses principes fondateurs, en maintenant l'état d'urgence, en menant une politique sécuritaire absolument délirante, c'est-à-dire rendant possible l'armement des policiers davantage, des policiers en civil, des policiers municipaux qui vont maintenant aussi pouvoir porter une caméra. Se dire que c'est la gauche qui rend possible ça, cette gauche qui en 1981 dans son programme portait la proposition du désarmement des policiers pour avoir une police à l'image de celle de la Grande-Bretagne, qui est toujours celle-là. Il se trouve que cet été je passais des vacances dans ce pays et j'étais frappé, enfin plutôt pas très surpris parce que je le connais un peu, de voir des reportages à la BBC qui expliquaient que puisqu'on créait 3 ou 5 000 postes de policiers supplémentaires pour lutter contre le terrorisme, il allait falloir faire en sorte que la moitié de ces nouveaux postes de policiers soient des postes de policiers armés, et donc ça allait faire passer de 10 à 12% la proportion des policiers armés dans le pays, et donc le reportage de la BBC s'interrogeait sur les conséquences que cela aurait, de risques de bavure, de danger pour les libertés publiques. On a l'impression qu'on habite sur une autre planète. Passé quelques jours cette semaine à Amsterdam, en ayant fait escale à Lille. À Lille, j'avais l'impression, un soir de cette semaine, de me trouver dans un pays où la présence militaire était massive. Des escades de militaires armés jusqu'aux dents se promenaient dans les rues piétonnes du vieux Lille. Et quelques heures plus tard, me retrouvant pour quelques jours à Amsterdam, j'ai croisé en tout et pour tout trois voitures de police en trois jours dans cette ville qui est...
En même temps, les Pays-Bas n'ont pas été confrontés à la même expérience terroriste que la France.
Ils ont le même type de population, de problèmes, de sociaux. Enfin, je veux dire, c'est un pays européen. Les attentats, il y en a eu partout. Il y en a eu récemment à Berlin. Mais on pourrait aussi prendre l'exemple de Londres ou de Madrid, qui ont été deux villes frappées par les attentats et dans lesquelles on n'a pas la même impression de cette présence sécuritaire. Et je pense que déployer cet état d'urgence, autoriser l'armement, aller dans la surenchère sécuritaire, c'est faire le jeu du terrorisme, c'est accepter d'être terrorisé par les terroristes. Donc je constate qu'autour de nous, il y a des démocraties européennes qui font le choix d'autres politiques de lutte contre le terrorisme et je les trouve, et parfois, comme en Allemagne, ce sont des politiques qui sont mises en œuvre par la droite. Et je veux profiter pour rendre hommage, parce que ça va de pair aussi avec la question de l'accueil des migrants, à la politique d'Angela Merkel de ce point de vue-là. Et j'ai été stupéfait, énervé, agacé de voir les médias français, après l'attentat de Berlin, pointer du doigt, jusqu'à y compris dans la presse de gauche, la responsabilité, soi-disant, de la politique de migration d'Angela Merkel, qui aurait été la cible des attentats à cause de cette politique, en quelque sorte. Je trouve ça incroyable. La presse allemande n'a pas du tout réagi de cette manière-là. Voilà, donc ça, ça a été la grande déception pour moi en 2016.
La grande déception de Sylvain Bourmeau, donc la gauche de gouvernement et sa politique sécuritaire. On termine donc Esprit de Noël oblige par la satisfaction de l'année, car il y en a forcément. Et vous avez dû avoir du mal à choisir, Philippe Magnan, entre toutes les choses qui ont pu vous satisfaire sur le plan politique.
Non, pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'il y avait la baisse du chômage, enfin. C'est pas suffisant, c'est bien tardif, mais enfin, tout de même, c'est une raison d'être satisfait, hein, puisque la question, c'est la satisfaction.
Mmh. Moi, la loi travail, par exemple.
Ce qu'il en reste, enfin non, franchement non. En revanche, il me semble que la grande satisfaction vraiment de 2016, c'est le maintien de la paix civile dans ce pays qui a été encore une fois frappé à Nice. Et on a vu dans les semaines qui suivaient Nice quelque chose qui commençait à ressembler à, non pas de la guerre civile, mais une espèce de tension qui aurait pu déboucher sur quelque chose d'assez grave. Rappelez-vous, le burkini, etc. C'était manipulation ici, réponse exagérée là, etc. Heureusement, le Conseil d'État a calmé tout le monde. Heureusement, d'ailleurs, il a tranché dans le sens des libertés publiques, à mon avis. Mais surtout, moi, j'observe qu'après plusieurs coups portés à ce pays, et je ne suis pas le dernier à considérer que ce pays va mal, hein, vous le savez, eh bien, il tient debout, il résiste. Et voilà, moi, je pense que s'il y a une satisfaction à avoir encore en 2016, c'est que la paix civile, quoi qu'elle ait été menacée, quoi qu'on ait essayé de parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut pas se raconter d'histoire, quoi qu'on ait essayé de lui porter des coups importants, eh bien cette paix civile a tenu encore une fois en 2016, j'espère que ce sera le cas en 2017.
Et vous l'attribuez à quoi, Philippe Manière, une forme de sagesse collective ?
Oh, je ne suis pas à ce point optimiste. Je crois qu'il y a malgré tout une très forte résilience et que les extrémistes parlent très fort, mais heureusement, ils sont très minoritaires.
Ah, c'est à dire Colosimo ?
Oui, et puis il y a eu des choses que moi j'ai trouvées très très impressionnantes, notamment après l'égorgement du père Hamel, où les catholiques, enfin la frange justement non identitaire des catholiques, enfin ont quand même ouvert les églises, et les musulmans sont venus prier dans les églises catholiques, et l'homélie d'ailleurs était particulièrement frappante, puisque on a prié évidemment pour le repos du père Hamel, mais aussi pour ces jeunes djihadistes qui sont ces brebis égarées qu'il faut absolument ramener à la raison.
Alors ça, c'est pas forcément votre source de satisfaction pour l'année 2016, Anastasia de Colosimo. C'est vous qui allez fermer cette émission, puisque vous l'avez ouverte. Sylvain Bourmeau, ce serait quoi, vous ?
Mais vous allez croire que je le fais exprès.
Non.
Mais je vous assure que non, et je vous assure que j'avais prévu ce choix. Moi, ma satisfaction de l'année, ça a été la fermeture des voies sur berge.
Par un nouvel. On va pouvoir causer après l'émission.
Pourtant, je suis... À la différence de Philippe Manière, je ne roule pas en métro ou en bus, je roule en deux roues, en scooter à Paris. Et donc je peste souvent parce que ça devient même en deux roues difficile de se faufiler entre les voitures parce qu'il y a des embouteillages. Mais malgré tout, je me dis que c'est vraiment une très très bonne décision, une vraie décision de maire, de grande maire, d'une grande ville.
Mais c'est pourquoi parce que vous aimez souffrir, comme nous l'a décrit tout à l'heure Philippe
Manière ?
Non,
pas spécialement, mais il se trouve que je pense que... Elle a raison. Je pense qu'il n'y a pas de bonne manière de faire en la matière, si ce n'est prendre des décisions radicales. Il fallait faire sur cette voie ce qui a été fait de l'autre côté du fleuve, le restituer à la population. Il n'y a que en agissant de la sorte qu'on pourra inverser les usages, faire en sorte que les gens prennent moins leur voiture, parce que ça deviendra insupportable. Probablement en arriver à la mise en place d'une fermeture du centre-ville, comme c'est le cas à Rome ou à Londres depuis longtemps. En tous les cas...
Donc oui, il y a des décisions radicales en politique, quitte à se fâcher avec une partie de...
Absolument, c'est-à-dire que c'est... Pour moi, une position politique exemplaire, rocardienne, j'aurais ajouté, contre le populisme ambiant, c'est-à-dire que Anne Hidalgo...
Rocard n'était jamais dans l'ostentation ni dans l'extrémisme. Ça, je Hidalgo suis certain qu'il n'aurait pas fait
Anne
ça.
Anne Hidalgo a du courage politique. Et je trouve que c'est pas monnaie courante aujourd'hui en France.
Allez, Anastasia Colosimo.
Moi, je n'ai pas de permis, donc je suis un peu étrangère à toutes ces questions-là. Là, moi, j'ai une vraie satisfaction, c'est que ces élections ne vont pas être un combat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, on peut effectivement dire que le renouvellement n'est pas total, que Fillon a toujours été là, que à gauche, c'est toujours les mêmes. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a quand même un appel d'air, je trouve. Il y a quand même des nouvelles figures qu'on voit apparaître, avec des nouveaux discours. Et en plus, des positions assez fermes. Fillon est un vrai... politique de droite. À gauche, on va avoir certainement un vrai candidat de gauche. Et donc, le débat va finalement peut-être être possible avec ces nouvelles têtes.
Plutôt 3 ou 4.
Mais ouais. Enfin, je trouve que quand même la plus grande satisfaction, c'est que cette année 2016 se ferme enfin.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on espère que 2017 sera mieux.
C'est un petit peu ce qu'on dit finalement à chaque fin d'année, hein, que l'année qu'on vient de vivre, Dieu sait si 2015 justement avait été particulièrement terrible. Voilà, mais on a envie de passer à autre chose. Ben, on verra bien ce que ça donnera en 2017. Tiens, juste pour terminer, 2017, qu'est-ce qu'il faudra particulièrement observer d'après vous ? Évidemment, la présidentielle, mais dans cette présidentielle, il faudra être attentif à quoi, à qui, Sylvain Bourmeau ?
Mais d'abord, et très vite, au mois de janvier, au succès ou à l'insuccès de la primaire de gauche, parce que la barre a été placée haute par la droite. Je ne pense pas qu'il y aurait autant de participants à la primaire de gauche, mais enfin, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop peu non plus, d'abord pour institutionnaliser cette pratique, dont je répète que je pense qu'elle peut renouveler la politique française.
Philippe Manière.
Difficile, parce qu'il y a eu tellement de surprises depuis 6 mois dans cette campagne que je trouve que c'est difficile de se dire maintenant voilà ce qui pourrait être surprenant. Enfin, on est payé pour savoir que les surprises ne viennent pas là où on les attendrait éventuellement. Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de savoir si Macron et Mélenchon vont durer. Mélenchon, la dernière fois, ça n'a pas duré longtemps. Macron, c'est la première fois, mais Mélenchon, la dernière fois, vous vous souvenez, il est, à un moment, on pensait même qu'il avait menacé Hollande il y a 5 ans. Ça n'a pas été le cas, in fine, du tout. Est-ce que là, on peut avoir deux... Est-ce que le PS s'est à ce point épuisé que ces deux candidatures peuvent forcir et tenir? Ou est-ce qu'au contraire, on va, comme d'habitude, voir s'effondrer ces deux candidatures face à un PS qui redeviendra le choix normal à gauche? C'est ça qui m'intéresse.
Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Anastasia Colosimo, je vous demanderai ce que vous attendez de 2017. Une prochaine fois, si vous le voulez bien.
En 2017.
Voilà, en 2017. Un grand merci à vous tous et à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Philippine Lebray, Antoine Tricot, Tanguy Omri. Un merci spécial à Isolte Sicard qui faisait son dernier jour de stage parmi nous après 4 mois de bons et loyaux services. Émission réalisée par Clémence Grosse avec à la prise de son Lucas Vaillant. On se retrouve lundi à 18h20. On s'interrogera sur l'avenir de l'Union Européenne en compagnie de Coralie Delhomme et de Guillaume Clossat.